Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bon midi à tous et à toutes. Bienvenue à un nouvel épisode de Ciné-Histoire qui revient après 6 semaines de congé, congé parental, bien mérité, vacances parentales même, parce que tout va bien de mon côté. Pas dire que j'avais hâte nécessairement de revenir travailler au boulot, mais je peux dire que j'avais hâte de revoir des films. Ça, ben j'en ai vu quand même pas mal. Là.
Ouais, ça t'a pas empêché.
Non, ça m'a peut-être même stimulé à en écouter un peu plus. Je suis rendu pas loin d'une centaine depuis le début de l'année déjà, fait que ça plus qu'un par jour. C'est, c'est une moyenne qui me rend confortable.
Tu devrais écouter... un film de moins par jour.
Pis... Mais des meilleurs.
Non. J'ai dû prendre du temps pour prendre des douches.
Ah, ben, j'en prends du temps. Là. C'est parce que, tu sais, c'est...
Oh là là, les jeunes, là.
Hey, quand tu bouges pas beaucoup d'une journée, là, donné, à quoi ça sert, là? Non, mais, ouais, c'est ça, j'ai écouté beaucoup de films. J'ai écouté les Oscars, comme pas toi, mais comme plusieurs. J'ai gagné mon pool des Oscars, ce qui est la seule chose qui compte, parce que j'avais mon titre à défendre de l'année dernière. Mm. Sur le groupe du Petit Coin Beurré. 20 prédictions réussies sur 23. Donc, j'en suis très, très fier. Surtout pour Emma Stone, qui a gagné meilleure actrice. Là. J'ai rien contre Lily Gladstone. Je trouvais vraiment que c'était une performance vraiment mémorable, très physique et tout. Je te conseille, t'as Disney Plus, toi, hein?
Oui.
Bon, c'est peut-être pas un film qui rentrerait nécessairement dans tes cordes, là, mais t'écouteras ça, Poor Things, qui a gagné quand même quelques autres Oscars, là. Meilleur costume, je crois, meilleur décor. C'est vraiment très artistique comme film. Ça reste une histoire, genre un mélange entre Pinocchio puis Frankenstein.
Ah,
sur
OK.
La... on va dire la sexualité d'une jeune femme. quelque chose comme ça.
Là, tu m'as perdu.
Ouais, c'est ça. Non, je t'ai pas... Ben, à la limite, je t'ai gagné. Je sais pas trop, là. Mais comme... c'est vraiment... Parce que, tu sais, elle passe comme à travers le stade de l'enfance. Puis, tu sais, elle est comme morte aussi. Fait comme elle bouge weird. Mais tu sais, c'est vraiment une performance très physique. Tu sais, dès les premières secondes où on la voit à l'écran, t'es comme... OK, ouais, c'est vraiment... C'est vraiment... C'est du bon acting weird, là. Ah. Mais je te conseille vraiment, il est rendu sur Disney+, là. C'est pas vraiment du contenu pour enfants, là. J'espère qu'il y a des bons
filtres. Disney+,
filtres.
Ils ont comme des...
Ben, c'est parce qu'ils ont racheté d'autres compagnies, là. Fait que ça fait en sorte qu'il y a toutes sortes de contenus.
Il y a les Avengers, qui est... Ben, je sais pas trop, là. Tu sais, il y a des films de...
Ouais, je vous dirais encore que c'est comme limite pour enfants. Ouais, ouais. Mais tu sais, celui-là, c'est pas... Tu sais, une scène sur deux, Emma Stone est tout nu, là. Tu sais, okay. C'est pas du contenu pour enfants.
Ouais, ça, définitivement.
Mais ça reste... Ben, elle couche avec le gars qui joue dans Hulk, Mark Ruffalo.
Ouais?
Fait que, ben, dans Hulk, il y a pas de film à son nom, là, mais qui joue
il
Hulk.
Il joue Hulk dans Avengers.
Ouais, fait que c'est ça, c'est le multiverse maintenant. C'est... Non.
Ouais, c'est...
Mais non, c'est vraiment très cool. Puis je suis content qu'elle ait gagné. Évidemment, bon, ça a été l'année de Christopher Nolan avec Oppenheimer qui a gagné meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure musique. Je suis pas d'accord avec meilleure musique. Je dirais peut-être plus de musique. Il y a vraiment beaucoup de musique dans ce film-là. Mais ouais, est-ce qu'il était mémorable? Je pense pas. Là,
c'est ça.
Mais...
Des fois, quand tu remarques la musique, c'est...
Ouais.
Des fois, tu sais, comme dans Pirates des Caraïbes, tu te dis, tu sais, il y a clairement un hook, là, tu sais, comme Harry Potter, mais des fois, il y a des films que quand tu remarques la musique, puis c'est juste un peu de genre de noise, t'es comme, j'étais pas censé remarquer la musique, là, tu sais.
Ouais.
Des fois, c'est mauvais signe.
Mais tu sais, c'est parce que Oppenheimer, jamais je vais faire comme, OK, je vais aller mettre la playlist, je vais aller mettre l'album dans mes écouteurs ou l'écouter, whatever,
comme
parce que c'est
Dune,
juste comme.
Là,
c'est juste comme. Mais Dune, étonnamment, je l'écoute pour m'endormir, puis c'est quand même efficace.
Mais oui, j'ai pas vu Dune. J'ai écouté beaucoup la playlist. Là, c'est de la recherche standard.
Ça, c'est du
fou.
Bon noise.
Ouais, c'est ça.
Puis en plus, Hans Zimmer, il dit qu'il a tout fait ça tout seul. Pas d'orchestre ou pas rien. Là. Fait que,
okay.
Lui, il a comme son gros keyboard là, qui émule les sons. Là. Fait qu'il est tout seul. Je sais pas où est-ce qu'il trouve le temps pour ça. T'sais, il fait genre 5 films par année. Puis là, il vient au Centre Bell. Il est comme en tournée constamment là, de jouer ses musiques. Puis tout. Le bonhomme a genre 68, 70 ans. Je suis comme...
C'est les ghostwriters, ils ont le droit aux états.
Ouais, mais lui, il est un peu particulier parce que c'est ça, il est comme un mentor, si on veut. Ouais. Tu sais, mettons, même Pirates des Caraïbes, il a écrit Jean Le Hook. Okay. Mais tout le reste, c'est il comme son élève. Ouais, ouais. C'est son élève. Puis il y a comme une école, justement. Puis il y a des mentors, des étudiants. Puis ils sont comme, tiens, tu vas faire le projet avec moi. Puis je vais faire deux tunes. Puis il fait le reste. Ouais. Fait que son nom, il est accolé partout. Mais là, Dune, là, c'est vraiment lui. Là, okay. Il y a des gros projets où il est tout seul. Mais c'est ça. Puis d'ailleurs, dans la discographie de Hans Zimmer, ben, il y a La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé de Xavier Dolan, la série okay. de Dolan. Hans Zimmer a gagné un Gémeaux l'année passée pour meilleure musique pour la télé québécoise.
Ça n'a pas de bon sens.
Il n'y a rien qui fait du sens, mais bon, c'est Xavier Dolan. Mais bref, ouais, c'est ça. Belle cérémonie aux Oscars. Un beau petit malaise, encore une fois, par Al Pacino. Qui fait juste comme ouais, ouvrir l'enveloppe puis faire hop, nana! ça n'avait aucun bon sens, mais c'était parfait comme moment. Puis une belle cérémonie globalement.
Personne ne s'est battu.
Non, personne ne s'est battu. Il y a eu Ryan Gosling qui a fait la toune de Barbie, puis c'était un beau moment. Il y a Jimmy Kimmel qui a lu un tweet de Donald Trump en direct pendant qu'il publiait de comme. Ah, c'est sûr, ça. En tout cas, qui roastait justement la cérémonie des Oscars ou peu importe.
Ok,
là.
Ok.
Puis c'est ça. C'est globalement quand même un beau moment.
C'est des jokes de Jeffrey Epstein?
Je pense que oui.
Ah ouais?
Je me souviens plus c'était quoi la joke, mais ça me dit vaguement quelque chose.
Ça me fait tout le temps bien rire.
Ouais. Je vais essayer de la retrouver. Mais moi, je pense qu'il y avait quelque chose.
Il y a eu aussi, c'était-tu dans ce gars-là, Billie Eilish?
Ouais. Elle a gagné son deuxième Oscar déjà. Elle a 22 ans, elle a déjà deux Oscars. C'est un Oscar un peu random. Là, tant qu'à moi, c'est juste pour attirer des vedettes au spectacle. Ouais,
mais ce que j'aime de ces shows-là, c'est que c'est des trucs qui se peuvent pas ailleurs, là, tu sais, là, elle commence, genre, avec son frère au piano, puis là, il ouvre des rideaux, puis il y a comme un orchestre, là, puis tu sais, tu peux pas amener ça en tournée, là, fait qu'il y a de quoi de...
Non, ouais.
J'aime ça, des trucs, c'est des one-time deals, puis c'est...
Non, ouais, c'est ça. Il y a des beaux moments aussi, là, il y avait Arnold Schwarzenegger, puis Danny DeVito, qui ont joué deux vilaines dans l'univers de Batman, puis là, t'avais Michael Keaton dans la salle, qui était comme habillé un peu en Bruce Wayne, puis là, il était comme « I see Batman ». Puis là, il regarde, puis il est pas content. Des affaires de même. Des beaux petits moments.
C'est bien amusant.
C'est ça. D'autres affaires qui se peuvent pas tant que ça dans le vrai monde. Ouais, mais que, là, quand que tout le monde est réuni, ben ça se peut. Ouais. Fait que non, vraiment très cool. Je voulais en profiter quand même, parce que je suis un gros geek des Oscars, là, même si ça fait deux semaines que c'est passé. Là, juste pour starter le show un peu avec ça. Et puis, on va commencer bientôt notre couverture, justement, des nouveautés de la semaine. Il y a 5 nouveautés qui prennent l'affiche. On en a vu 3. La grosse nouveauté, c'est le nouveau Ghostbusters, là, que je dirais que personne n'a demandé, mais qu'en même temps, il y a eu un bon succès du dernier volet. Là. Il y a eu les deux premiers dans les années 80. Il y a eu l'autre que c'était, on va dire Ghostbusters, mais c'est des femmes. Là. C'était ça le branding. Que lui, tout le monde s'en est foutu. Là. Pas parce que c'est pas legit comme film, mais juste parce que c'était pas bon, malheureusement. Puis après ça, ils ont comme fait un reboot ou un semi-remake, là, dans le fond, avec une nouvelle génération, mais que là, t'as les vieux aussi qui sont pas loin. Fait que... Les boys, ils font faire la même affaire là, dans quelques mois. Il y en a un autre boys. Ben, ils l'ont déjà fait, là, ce concept-là. Ouais. Mais ils le refont encore. Bon. Mais c'est ça. Puis là, il y a le nouveau, donc la suite du 4, mais qui est comme une semi-trilogie en soi. Les critiques sont tièdes quand même, mais si vous aimez la franchise, j'imagine que vous allez sûrement aimer ça. Là, moi, je suis pas un grand fan de Ghostbusters. Ça m'a pris longtemps avant d'aimer, mettons, le premier, qui est le meilleur, là, assurément. À un moment donné, c'était comme... C'est ça, je trouvais l'humour n'a pas super bien... Pas qu'elle n'a pas bien vieilli, mais tu sais, qu'elle n'était pas tant drôle, je trouvais. Puis là, à un moment donné, j'ai comme... c'est acquired taste, là. Tu sais, ça prend un petit moment avant de l'aimer. Le 2, c'était tel que tel. T'as-tu déjà vu, toi, les Ghostbusters?
Je les ai vus, mais très jeune. Ouais. J'ai pas...
Il y avait une série télé aussi quand on était jeune. J'ai pas halluciné ça. Avec le bonhomme vert, là. Puis,
ouais, ça me dit quoi.
Ouais. En tout cas. Mais ça, je suis pas un grand fan de la franchise.
Casper, ça.
Ouais, ça aussi.
Casper!
Il est pas vert. Mais ouais, ça aussi, il y avait une série Casper. Et des films. Mais bref, c'est ça. J'ai... ben, j'irai pas le voir vu que j'ai pas vu Afterlife avant. Là, fait que j'étais un petit peu en retard, mais c'est ça, il était quand même bien attendu. Et sinon, ben, les autres films dont on va parler aujourd'hui. Il y a un autre film d'horreur aussi qu'on n'a pas vu. Là. Toi, t'aimes pas les films d'horreur, puis ça a pas l'air top non plus. Immaculate ou Immaculée avec Sidney Sweeney là, qui est dans tous les films. Là, ça a sorti trois films dans les trois derniers mois, je pense, en plus d'être dans Euphoria et toutes ces affaires-là. Là. Fait que critique tiède encore une fois, joue une nonne qui s'en va dans un couvent puis que là, des méchants. Bon. Fait que une histoire assez classique. Mais les trois autres films donc, dont on va parler aujourd'hui, c'est La Fonte des Glaces, c'est La Dernière Nuit à Milan ou Last Night of Amore. Ben, c'est un film italien en fait. Là. Mais, en tout cas, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit en anglais. Le troisième qui est La Vénus d'argent. Voilà, donc oui. On a visionné les trois. En tout cas, moi, j'ai visionné les trois. On va vous en parler tout de suite après la pause. Puis on va vous faire aussi un petit tour d'horizon slash vous présenter l'entrevue que j'ai réalisée plus tôt cette semaine avec Catherine Villot, qui est la programmatrice du Festival Cinéma du Monde de Sherbrooke, qui a annoncé sa programmation pour la 11e édition. Donc, on va vous faire un petit tour d'horizon puis vous en parler dans quelques instants. Donc, on s'en va un petit bloc pub puis on revient dans quelques instants.
On prend une pause. Pour bien payer le loyer.
88.3,
c'est FAC. Ça part ici.
On le sait que tu passes ta journée sur les réseaux sociaux. C'est clair.
Ah ouais, prends 5 minutes puis viens nous voir.
C'est FAC.
88.3.
Les samedis et dimanches, dès midi,
Week-end c'est FAC.
La bonne musique, la bonne humeur.
Puis une grosse voix qui te dit à quel point c'est le fun.
On réinventera quand même pas un show de radio de fin de semaine, mais on te donnera pas de t-shirt.
Les week-ends c'est FAC.
Ça part ici.
C'est FAC. 88.3.
Bon, les comptes sont payés. On peut retourner aux vraies affaires.
88.3.
C'est FAC.
Un jour, je vais faire un film. Je ferai la prise de son. La réalisation. Le montage et la direction photo.
Vous êtes de retour à Ciné Histoire et puis ben plongeons déjà dans le vif du sujet, soit les nouveautés de la semaine. On en a vu trois. Il y a tout d'abord, commençons avec celui qu'on a vu il y a le plus longtemps, Vénus d'argent, qui est nouveau film ou le premier film. Je pense que c'est peut-être le premier long-métrage. Enfin, bref, d'Elena Klotz. Donc, c'est un film français qui met en vedette Pomme, qu'on connaît bien quand même ici au Québec. Il est quand même bien connu aussi en France. Et qui met en vedette aussi Nils Schneider, qu'on a vu dans quelques films de Dolan, là, Les Amours imaginaires, je crois, Laurence Anyways, bref. C'est ça, un habitué quand même des Québécois et Québécoises. Donc, ce film-là, en fait, s'intéresse une jeune femme qui essaie de percer un peu le milieu de la finance ou de la bourse auprès de la firme qui l'engage comme stagiaire d'abord. Là, ça rend comme pas justice. Ce résumé-là rend comme pas justice à l'ambiance générale du film, là, je trouve. Là, mais grosso modo, c'est à peu près ça. Cette ambiance-là est comme un peu... tout le monde est un peu bizarre. Ben, à commencer avec Pomme, justement, qui est très, très froide, qui est même à la limite... je veux pas dire non-genré, là, mais tu sais, qui est pas tout androgyne, à la limite.
Ben
là,
oui, elle dit à un certain moment, comme
c'est ça, elle veut comme cacher ses traits féminins, sans nécessairement dire que c'est un homme, là. Tu sais, c'est comme, elle veut être comme asexuelle. Je sais pas exactement, j'ai pas trop... une petite... ça a rapport avec peut-être un trauma du passé, là, qui expliquerait peut-être ça, mais bon, c'est jamais trop mis au clair non plus. Donc, on la suit, c'est ça, alors qu'elle a gravi les échelons un peu, puis que là, son patron décide de la prendre sous son aile, puis de faire « OK, on va voir si t'es vraiment bonne. » Tu sais, il donne des défis ou des missions, puis là, si ça marche, ben il va la déménager à Singapour, puis donner une job...
bien placé.
Bien placé. Je m'en allais dire payante, mais elle n'a pas
l'air. C'était comme 50 000.
C'était 50 000 euros. J'étais comme
le gars, il y a des Lambos, là. Puis...
50 000 euros pour déménager à Singapour. Ben là, c'était tout logé, nourri. C'est déjà ça. Mais 50 000 euros, c'est 75 000 Canadiens. Là. C'est un prof avec de l'expérience. Là. Mais bon. Fait que c'est ça. La première partie est beaucoup concentrée là-dessus. Puis la deuxième est plus concentrée dans. Un drame amoureux, si on veut. Une espèce de deuil de ce milieu de la finance-là qui l'a peut-être trahi. Il y a quand même beaucoup de choses. Puis là, les avis sont quand même relativement partagés parce que le film a eu des bonnes critiques quand même. Mais les utilisateurs n'ont pas tant trippé, là, tant en France qu'au Québec, là, ceux qui l'ont déjà vu. Là, c'est ça, les réactions sont un peu mitigées. Puis ça se reflète bien, je pense, dans nos appréciations parce que toi, tu sembles bien l'avoir aimé.
Oui, c'est rare moi que aussi. J'ai plus apprécié un film que toi.
Ouais, mais parle-nous-en. Là, qu'est-ce que tu as aimé dans ce film-là?
La direction photo.
Ouais. Mais ça joue pas beaucoup pour toi, le look d'un
vraiment,
film. Là.
C'est vraiment... vraiment. Ouais. Puis je pense
c'est correct.
Là. J'aime ça voir dans... Tu sais, je quand on parle du budget à l'écran, je pense quand même qu'il y a une bonne partie de passion à l'écran, que tu sais, même avec des plus petits budgets, on est capable d'avoir une signature visuelle, puis un certain effort, là. Mm-hmm. Ça prend autant de temps à faire des plans de pharmacie que
ouais,
des plans de cinéma, là. Je trouvais que c'était vraiment, il y avait une belle colo, il y avait des beaux jeux de lumière, tu sais, c'était... C'était bien.
C'était Paris. C'était Paris, mais la nuit aussi, on la voit peut-être un peu moins. Ou tu sais, c'était le Paris aussi très business, là. Tu sais, les gratte-ciels. On oublie qu'il y a des gratte-ciels à Paris, là, parce qu'ils sont un peu plus loin du centre-ville.
Ben, il y avait un beau contraste parce que résidait dans un endroit comme qu'il y avait une gate, là.
Ouais,
c'était tellement pauvre qu'il y avait une prison autour, là. Je sais pas trop.
Non, de la façon que je le voyais, c'était comme des habitations pour les gendarmes ou les gens de l'armée, là. Parce que son père est gendarme.
Ah, okay.
Son autre chum, il est comme dans l'armée. C'était comme une. C'est comme un. C'était comme des tours. Résidentiel, mais pour des policiers slash des gens de l'armée. Puis on dirait qu'il y avait comme un... Il y avait beaucoup de policiers au sol aussi. Là. Peut-être qu'il y avait comme justement une caserne. En tout cas, je sais pas comment ça marche en France.
Mais
je sais pas si t'es obligé de rester où que tu travailles. c'est ça. Une communauté assez bizarre puis assez éloignée, si on veut, du monde de la finance. Mais ouais, assez modeste aussi là, parce qu'ils parlent souvent des problèmes d'argent puis père monoparental, toutes ces affaires-là.
Puis sinon, il y avait beaucoup de... Tu sais, je pense que le point faible, c'était peut-être ça, la monotonie du range de pommes, là, mais mm-hmm. qui avait certaines scènes que ça allait super bien.
Ouais.
C'était très peu là, que j'ai fait « Oups, ça accroche un petit peu. » Ou c'était peut-être juste le dialogue. Là, des fois, je fais...
Je pense que c'est surtout le dialogue. Ouais, sa performance était quand même constante, là, si on veut.
Oui, parce que ça, des fois, ça passe vite, puis je sais pas trop si c'est le dialogue ou l'acting que qui a fait que ça accroche. Puis, ça traitait de beaucoup de problématiques, je trouvais, de la société... sans être comme ultra obvious puis comme collé là, comme là c'est la scène qu'il faut parler de consentement. T'sais, il l'a eu, mais ça marchait, puis il y avait des twists le fun là, à ça là, de justement là, que c'était son ancien chum que là, un moment donné il s'engueule, puis il y a eu un manquement au niveau du consentement, mais il y a comme un character development du gars qu'on voit quand même moins.
Plus dans la deuxième moitié, là, mais c'est ça.
Ouais, fait que, tu sais, c'était... Fait que ça traitait de plein de trucs, mais bien, contrairement à beaucoup, beaucoup de films, là, que je trouve... Ouais.
Non, je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, sans nécessairement que le film m'ait si marqué que ça, ou même que je trouve que ce soit un excellent film, je trouve que Lang était quand même assez original. Pas nécessairement original, mais tu sais, je me souviens pas de film nécessairement qui avait cette approche-là.
Ouais.
Tu sais, ça me faisait penser, mettons, un petit peu à Social Network, mais en moins dynamique, là, si on veut, parce que c'était très, tu sais, des personnages très froids, là, limite autistes. puis, tu sais, une exploration particulière du milieu de la finance ou d'un milieu relativement fermé, quasiment sectaire. Là, un moment donné, ils vont à un party pour essayer de convaincre une businesswoman de faire affaire qu'eux autres. Là, c'est comme, on va coucher avec. c'est un peu weird. Là,
ça aussi que j'ai pas dit. C'est qu'il y avait aussi comme que tu disais tantôt, elle fait tout pour être à la limite asexuelle ou le pas être sexualisé du tout.
Ouais.
Puis aller de toute façon.
Ouais, c'est ça.
fait comme ça, tu sais, ça en dit long, sur le milieu. Là, je le côtoie pas, fait que je sais pas la véracité
C'est pas très glorieux comme message, je crois. Là. T'sais, on glorifie pas le monde de la finance. Là.
Elle a fait...
si clairement, elle veut essayer de percer puis de faire de l'argent.
Ben, c'est comme son rêve, c'est d'être comme son boss qui suit, puis que finalement, c'est clairement un trou de cul. Là, fait que, mais elle glorifie au bout. Pis, fait que, ouais, elle veut comme rentrer dans une place qui veut pas d'elle, puis que ça serait pas bon probablement pour elle à long terme.
C'est clairement un milieu malsain. Son avancement provient de genre du fait qu'elle a shamé d'autres employés.
Oui,
là, c'était comme c'est pas là que t'as le goût de vivre ta vie, mais elle, oui.
Ouais, mais c'est ça dans vraie vie, c'est ça. Le monde, il pousse pour atteindre des objectifs que finalement, c'était pas ça là, qui rend heureux. Là.
Non,
je trouvais que c'était cool. Je trouvais que c'était très véridique là, comme récit, puis que ça se pouvait.
C'est vraiment angle particulier, belle direction photo. Bon, c'est ça. Ton monotone qui fait peut-être défaut, mais tu sais, qu'on comprend pourquoi c'est abordé de même, mais qu'en même temps, ça aurait pu être plus dynamique aussi. Là, puis je pense pas que ça arrête de dénaturer le propos ou même le feel général du film. Fait que, c'est ça. T'sais, globalement, quand même, on a bien aimé tous les deux. Il y a un caméo de Sophia Nolin, parce qu'évidemment, Pomme et sa femme blonde, je me souviens plus. Caméo qui ne se peut pas. Là, je tiens à le préciser.
Moi, en plus, en l'écoutant, je l'ai pas comme... intellectualisé, comme quand tu me l'as nommé, j'ai fait
En gros, elle fait une petite je le spoil, oui, puis non, là, ça sert à rien l'histoire, mais comme il y a une fête pour un policier, puis c'est Safia Nolin qui est comme bookée comme l'artiste, si on veut, puis je suis comme ouais, c'est ça, puis là, t'es comme Safia Nolin qui fait un corpo pour la police, là. c'est comme Black Tabou qui fait un corpo pour QS, là. Ça marche pas. Mais bon, tu sais, c'est ça. C'est un rôle, là. Fait que...
Moi, je pense que j'étais juste content.
C'est une belle toune, là, qu'elle fait. Elle fait une reprise de Joe Dassin, là. Mais c'est une super bonne toune, là. Tu sais, c'était vraiment cool. Mais c'est ça. C'est dans le contexte, quand on sait c'est qui, puis qu'est-ce qui est en train de se passer, c'est que, ça fait pas beaucoup de sens. Mais c'est pas grave, là, c'est juste ça. Fait que La Vénus d'argent, donc d'Elena Klotz, c'est une recommandation, moi, je pense. Là, Mediafilm, il a donné 3, qui est quand même une excellente note. Mais plusieurs personnes là, que je suis et qui sont d'autres critiques, mais en tout cas qui publient moins ou peu importe, là, ont pas tant aimé le film. Fait que... faites-vous votre opinion, puis allez le voir. La Vénus d'argent, donc ça prend l'affiche aujourd'hui à la Maison du cinéma. On continue avec un film québécois, tiens. Allons-y, donc La Fonte des glaces du réalisateur là, François Péloquin. François Péloquin, il a fait un film il y a presque 10 ans, en 2015, là, Le bruit des arbres, qui avait quand même eu une bonne presse. C'était un premier film prometteur. Puis là, il revient, c'est ça, quand même 10 ans après, avec La Fonte des glaces, qui s'intéresse étrangement à un sujet qu'on a abordé dans un film il y a 2-3 mois là, à peu près, qui est « Je verrai toujours vos visages ». Donc, le concept de justice réparatrice. Puis même dans « Je verrai toujours vos visages », ça le dit là, que c'est une initiative qui est née du Québec et puis qui commence à faire son bout de chemin un peu partout dans le monde. Donc, c'est le principe où... dans « Je verrai toujours vos visages », le principe, c'est qu'on prend les criminels puis on les fait rencontrer les familles des victimes ou leurs victimes puis on essaie de les réhabiliter dans le monde. Ici, c'est plus comme une aile d'un pénitencier qui... comme une micro-expérience, si on veut. Ils prennent 5-6 détenus puis ils essaient de les réhabiliter en leur faisant faire des activités. Du boat, ouais, c'est ça. Ils font... du canot de glace aussi, de glace, ils font du karaoké, ça, évidemment, ils sont jalousés par, pas nécessairement les autres prisonniers, mais par les gardes qui sont comme, c'est des tueurs, parce que c'est ça, c'est comme des criminels violents, là, veut, pas si on veut, mais c'est ça, et puis, c'est ça, donc, ils sont dans cette aile-là, puis, they're living the dream, un peu, là, c'est quasiment le principe de tout inclus, là, c'est-à-dire qu'ils sont libres de faire des activités, puis tout, puis bref, c'est ça, le but, c'est d'empêcher la récidive à la sortie de la prison, puis de les préparer un peu à ce qui s'en vient. Puis là, On suit principalement ben, Louise, qui est jouée par Christine Beaulieu, qui est l'instigatrice de ce projet-là. Puis on suit un nouveau détenu là, qui se fait 20 ans, qui est en prison, puis là, il va être libéré dans 5-6 mois, qui est Marc, qui est joué par Luther Bluteau. Un acteur que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu au cinéma québécois, mais qui a joué dans deux classiques du cinéma, c'est-à-dire Jésus de Montréal et Le Confessionnal. Je le dis tout de suite, parce que moi, c'est un acteur avec qui j'ai beaucoup... Ben, les deux, j'ai quand même un peu de misère avec eux. Christine Beaulieu, je trouve toujours que... Pas nécessairement qu'elle n'a pas des bons rôles, mais qu'elle joue toujours un peu le même personnage... Elle joue toujours de la même façon, peu importe le personnage qu'elle doit interpréter. À deux exceptions près, j'ai trouvé, là, soit dans Simple comme Sylvain, où là... à jouer un personnage vraiment plus grand que nature, là. Mais tu sais que là, je trouvais qu'elle avait du range, enfin. Tu sais, on dirait qu'à chaque fois, je la vois beaucoup là, dans des films québécois, puis à chaque fois, je suis comme, est-ce que c'est le rôle que là, elle va pouvoir pousser un peu son range, puis changer? Elle aussi, elle a un ton un peu monotone, un peu nonchalant, si on veut, un peu comme son chum Roy Dupuis, là. Tu sais, il joue toujours sur le même niveau, ou presque. Mais une fois de temps en temps, t'as comme une performance, t'es comme, ah, OK, tu sais, dans J'aime Hydro, ben là, OK, tu sais, c'est pas la même affaire dans Simple comme Sylvain non plus. Puis ici, honnêtement, je l'ai trouvé pas si pire. Tu sais, je trouvais qu'elle fitait bien dans le contexte du film. Même chose pour Luther Bluteau. C'est un acteur là, que j'ai vraiment de la misère avec lui. Je comprends pas toutes les opportunités qu'il a eues pour le range qu'il a. Là, tu sais, ça a changé un peu sa carrière avec le temps. Là, Star, il joue vraiment juste des weirdos, là, tant aux États-Unis qu'au Québec. Là, il joue encore un peu un weirdo. Mais justement, vu que là, ça fitait dans le contexte du film, alors que dans Jésus de Montréal ou dans Le Confessionnal, là, il joue des gens normaux, là, en théorie. Okay. Puis là, je suis comme... Tu le vois, là, son delivery, là, il parle avec une patate dans la bouche. Puis tout, là, t'es comme, comment t'as fait pour avoir les deux plus grands rôles presque des années 90? Puis d'avoir, genre, cette absence de charisme-là. T'sais, en weirdo, il fit super bien. Mais bref, là, il joue un semi-weirdo. Puis là, enfin, je trouve que, OK, t'sais, ça, c'est un beau rôle, probablement de composition, ou t'sais, je sais pas trop. T'sais, probablement que le film a été un peu pensé pour lui ou pour quelqu'un de son range, là, si on veut. Ouais. Bref, on va y revenir sur l'acting parce que toi, je sais que ça, c'est là où le film fait défaut, peut-être. Mais bref, c'est ça, on les suit pendant un bon moment là, dans les derniers mois là, de ce qui est cette aile de ce qui est sa sentence, puis aussi même de ce qui est cette expérience-là de justice réparatrice. Donc, commençons tout de suite, peut-être, là, parce que on va commencer avec... Là où le bas blesse. Là. On va arracher le plaster tout de suite. Là. Toi qui aimes les films qui look good, ça look pas nécessairement toujours good.
Ben, j'y pensais pendant que tu parlais, puis on dirait que ça a été filmé par deux équipes. Là.
Ouais, une équipe extérieure et une équipe intérieure.
Ouais, c'est ça. On dirait que tous les shots extérieurs, tu sais, c'est sûr, c'est le décor, mais tu sais, il y a quand même des... des plans intéressants, tout ça. Ouais.
C'est vraiment très beau. Ça se passe un peu, comme on disait, du canot de glace. Là, fait que c'est sur le fleuve, à la fonte des glaces, là, justement. Donc, il y a encore un peu de neige, un peu de glace. Moi, j'aime ça voir l'hiver au cinéma. Là, on le voit pas tant que ça parce qu'il fait frais. Puis personne ne s'y tente. C'est ça, le gear, il aime pas bien ça. Mais oui, effectivement, l'extérieur est très, très pro des belles shots. Puis l'intérieur, ça fait...
Ben, c'est ça, des fois, tu sais, je t'accorde qu'il y a des beaux jeux de lumière, mais dans composition, c'était très... Ouais, c'était très télé, là.
Ouais. J'ai eu ce feel-là aussi au début. À un moment donné, je me suis comme laissé un peu emporter par l'histoire, puis ça m'a moins dérangé. Mais au début, avec le générique, puis tout, j'étais comme, OK, ça fait très... épisode 3 d'une saison, genre d'une série quelconque. Ouais. Mais après ça, ça s'est dissipé un petit peu. Puis là aussi, toi, où ça a posé problème, peut-être, c'est justement dans cet acting-là inégal ou...
Ben, je sais pas encore. Je sais pas si c'est le dialogue ou tu sais, ou c'est le delivery. Je sais pas sur le plateau. Comme je te disais tantôt, c'est la job à qui de faire. Là, c'est écrit... je m'en vais au magasin. Est-ce que je le dis je m'en vais au magasin ou je m'en vais au magasin? Tu sais, comme normal. Ouais. Tu sais, c'est à qui de prendre cette décision-là? Je sais pas, mais Il y avait des bouts que c'était lu, là, pas possible, puis des phrases que personne dit dans la vraie vie. Comme une phrase est hyper lue, puis après, c'est super jargon.
Ouais.
Fait qu'il y avait comme, c'était... Fait que je sais pas.
C'était inégal. C'est ça, puis tu sais, même dans... Tu sais, je trouvais que, même si c'est pas, on va dire, les personnages les plus élaborés, là, on a déjà vu ces personnages-là ailleurs, au cinéma ou à la télé, mais je trouvais que c'était quand même une galerie de personnages qui aurait pu être intéressante, mais qui est sous-exploitée parce qu'au final, on suit plus Louise puis Marc, puis on suit moins justement les autres là, en background. Ouais. Mais je trouvais quand même l'approche intéressante. C'est sûr que on dirait que c'est comme un film... On dirait que c'est deux films, en fait. Puis là, c'est pas intérieur-extérieur, là, c'est vraiment comme... T'as le film un peu social, si on veut, qui veut conscientiser sur ce processus-là qui est la justice réparatrice, qui veut s'intéresser à, bon, est-ce qu'en sortant de prison, il va être changé ou pas? Ça fait 20 ans qu'il passe à se faire battre avec d'autres prisonniers, puis là, il passe 6 mois dans de la justice réparatrice, ça a-tu fait un impact ou pas? T'as ce film-là, puis t'as l'autre film où c'est une enquête, parce que c'est, dans le fond, ce qu'on apprend, c'est que Marc serait peut-être la personne qui a tué la mère de Louise et donc la femme de son père, là, parce qu'il y a son père aussi qui est joué par Marc Bellan qui est là-dedans, qui est un enquêteur retraité, puis qui garde ça toujours un peu en tête, puis que là, ben, maintenant, les astres sont alignés parce que il se ramasse dans l'aile gérée par sa fille, puis là, les deux se mettent à enquêter là-dessus. Fait que d'un côté, c'est comme un film social, puis de l'autre côté, c'est un film d'enquête, si on veut. Puis tu sais, ça prend surtout son importance dans les 20 dernières minutes du film où là, tu sais, il sort de prison, puis là, on le suit pour savoir, OK, whatever. Mais c'est ça essaie d'être deux films, mais je pense que c'est plus intéressant en tant que film social qu'en tant que film d'enquête.
Ben, c'était drette ça, mon prochain point. Là. J'étais comme, il y a comme trop de layers comme pour rien. Là, c'était ça, c'était comme...
Trop de layers, mais très mince les layers. Il y a comme, on dirait qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas assez de contenu pour un ou pour l'autre, fait qu'ils ont comme mis deux affaires ensemble.
Ouais, parce que c'est ça, le B-story là, de l'enquête, j'étais comme, tu sais, il pourrait ne pas être là.
Non. Je pense que ça aurait été plus intéressant. Tu sais, je verrai toujours vos visages. C'était juste le message social. Ouais. C'était trois histoires différentes, trois cas de figure différentes. Puis, c'est ça. C'était assez. Tu sais, au final, je pense que c'est plus ça qui est intéressant qu'une histoire qu'on a déjà vue par le passé de comme, ben, il a-tu tué ou il l'a pas tué.
On dirait que ça me sortait, tu sais, un peu du film de comme, c'est ça, les astres étaient comme un peu trop alignés pour que ce soit comme.
Ouais.
Crédible, là, de que ben là, il arrive dans la prison, dans le programme de sa fille, puis là, tu sais,
c'est dommage parce que je sens qu'il y avait quand même un bon film dans cette histoire-là. Ben, reste que je l'ai quand même bien aimé, là. Je cacherai pas que c'est pas le film de l'année nécessairement, mais à un certain moment, c'est ça, je suis comme embarqué dans le film, puis là, j'ai moins vu les détails qui passent pas, là. Tu sais, puis c'est toujours aussi la fine ligne entre créer de l'authenticité puis avoir de l'authenticité stagée. Là.
Ouais.
C'est une scène de karaoké qui se veut, si on veut, authentique, mais qui est tellement malaisante que c'est comme... probablement que c'est de l'authenticité, mais je suis comme... j'aimerais mieux un autre authenticité. J'aimerais mieux autre chose là, d'authentique. Mais moi, ça, c'est mon problème. Là. J'ai de la misère à regarder des gens chanter. Là.
Ouais.
Ça a toujours été un problème. Mais bref, c'est toujours comme... Il y a des bouts où ça marche, l'authenticité qui essaie de créer, puis il y a des bouts où ça fait stager, comme tu disais.
Mon problème, c'était, on dirait, il y avait de quoi. Là. J'étais comme, all right, ça s'en va quelque part. Puis là, il y avait une ligne qui accrochait, là, puis là, j'étais comme, oh non!
C'est ça. Fait qu'on est peut-être passé à côté d'un grand film. Au final, ça en fait un film, nous sommes tous corrects, mais c'est ça, qui aurait pu être quelque chose de vraiment mieux. Mais on vous le conseille encore, comme on vous dit. Puis le cinéma québécois, là, c'est ça, l'année passée, il était sur les chapeaux de roue. Cette année, on verra ce qu'il a à nous réserver. Mais tu sais, ça reste, somme toute, au moins on par, là, avec, tu sais... Ça reste, c'est ça. Bon.
Je sais pas comment le dire, mais
c'est pas gênant comme film, Mais c'est ça. Il manquait peut-être quelque chose pour soit le rendre mémorable ou rendre mémorable pour les bonnes raisons là aussi. Tu sais, je vais me rappeler longtemps. Je passe de la scène du karaoké parce qu'elle m'a fait cringe. Mais c'était un peu le but aussi. Fait qu'en tout cas,
la chaise de métal aussi.
Ouais, c'est ça. Le band qui se porte. Bref, allez faire votre opinion de La Fonte des Glaces de François Péloquin, qui m'en vedette, Lothar Bluteau et Christine Beaulieu. Je termine avec un film. Là, t'as pas eu le temps de le visionner, celui-ci. Un film, lui aussi, le contexte de visionnement n'a pas été optimal pour moi, qui est nouvellement parent de deux enfants. Mais j'ai quand même, somme toute, aimé ça. Mediafilm y a aussi donné 3, là, ce qui est une très bonne note. Là, je pense que j'ai moins aimé ça que j'aurais pu si je l'avais vu, par exemple, en salle. Mais bref, c'est la dernière... voyons. Dernière nuit à Milan, voilà, qui est un film italien, donc de Andrea Di Stefano, qui est un ancien acteur comique qui est rendu réalisateur depuis un petit moment. Okay. Donc, c'est un film quand même assez sérieux. Grosso modo, on suit un policier du nom d'Amore qui est. Le film s'amorce en fait à la journée de sa retraite, la nuit de sa retraite, c'est sa dernière nuit de service, il y a un surprise chez eux, puis là, il rentre chez eux, puis il reçoit un appel, et comme. Ah, il faut que tu viennes au poste. Puis là, il est comme, ah, OK. Puis, c'est ça. Là, son meilleur ami est mort. Puis, il y a eu plein d'affaires il y a eu un accident dans un tunnel ou whatever. Fait que, pas qu'il reprend du service, mais comme, il s'en va là pour gérer ça. Puis là, la moitié du film, c'est un flashback de qu'est-ce qui est arrivé là. Parce que ce qu'on apprend, c'est que c'est un policier corrompu. C'est pas juste le good guy.
Ça a l'air de 19-2, là.
Ouais, c'est non, pour vrai, visuellement, tu l'aurais aimé. C'est vraiment très, très beau. Ça se passe à Milan. C'est beaucoup de nuit aussi. Des super belles shots de la ville. Puis ça se passe beaucoup dans un tunnel, justement. Je veux pas dire que c'est un huis clos, parce que la première heure, c'est comme un gros flashback qui explique un peu c'est quoi son type de corruption. Parce que c'est un policier corrompu, mais avec des principes.
Okay.
C'est dans le sens, c'est comme un bon policier corrompu. Là. C'est comme, je fais des petites magouilles ici et là, mais là, je vais vous faire des lifts à vos criminels, mais il n'y a pas personne qui a de gun. Puis il n'y a pas personne qui a whatever, parce que s'il se fait arrêter, il ne veut pas être dans marde nécessairement. Ah. Fait que tu sais, c'est pas un vrai policier corrompu. Puis là, c'est ça qui arrive, c'est que l'accident où que son meilleur ami est mort, parce que lui aussi, c'était un policier corrompu comme lui, c'était que il devait faire une mission assez simple d'amener deux personnes du point A au point B, puis ils se sont fait intercepter par la police qui s'est mis à leur tirer dessus, puis qui a tué tout le monde sauf lui, incluant les policiers qui ont tiré dessus. Là. Fait que ce qui cause une scène un peu weird où c'est deux policiers qui sont entretués d'une certaine façon. Puis... Donc, la première heure, c'est vraiment expliquer un peu le contexte qui a mené à ce lift-là qu'il a donné. Et puis, après ça, comment lui, il s'en est tiré. Puis là, tu sais, tu retournes à la scène du début où là, il s'en va à son surprise. Fait que là, finalement, tu te rends compte qu'à son surprise, il était comme un peu PTSD d'avoir tué 4 personnes.
OK.
Puis que son ami soit mort. Puis des affaires de même. Puis là, la deuxième moitié du film, ben c'est lui qui s'en va là-bas puis qui... comme un peu témoin, ou en tout cas, qui est, vu que c'est son meilleur ami, il passe comme en interrogatoire, mais c'est un peu lui qui est comme un peu là pour voir, OK, vont-tu comprendre que c'était moi qui étais sur les lieux du crime?
Ouais, il check un peu,
je vais-tu me faire pogner ou pas? Puis en même temps, il fait comme, mon ami. Fait que c'est ça la deuxième moitié du film. Puis là, il y a comme un twist intéressant que je mentionnerai pas, là, parce qu'on veut pas scraper le visionnement. Mais bref, c'était un film très procédural, très classique, je dirais, policier. Si vous aimez les polars, moi je le compare beaucoup à un livre que tu achèterais à l'aéroport. Là, un polar que tu achètes à l'aéroport.
Ouais, ouais.
C'est comme, tu pognes un livre un peu random que la couverture a l'air cool. Tu lis ça un peu, tu passes un bon moment, mais tu l'oublies. C'est pas le highlight de ton voyage non plus. Mm. Fait que c'est un peu ce principe-là. C'est comme, c'est du bon divertissement. C'est un bon film policier si vous aimez le film policier. Des belles shots, des beaux revirements, de l'acting bien correct et tout. Mais. Pas de scène vraiment mémorable ou en tout cas qui m'ont pas marqué tant que ça. La dynamique est weird aussi. Là, je peux pas trop en parler de la deuxième moitié, mais il y a comme un revirement de situation qui, on le sait, là, la police globalement, est corrompu. Puis en Italie, c'est un peu pire. Là. le berceau de la mafia, là, quand même. Mais bref, c'est ça. Tu te rends compte que tout le monde est un peu corrompu, finalement. Puis c'est un peu ça, le message. Je voyais dans des commentaires que des gens voyaient ça comme un hommage au cinéma des années 70, aussi italien, policier. J'ai pas une assez grande connaissance de cette niche-là pour constater ou non. Mais tu sais, globalement, moi, j'ai quand même passé un bon moment. Puis comme je vous dis, vous aimez les films policiers, vous allez aimer ça. Donc, Dernière nuit à Milan. C'est une recommandation, vraiment. Là, surtout sur grand écran, là, les shots, ils doivent quand même valoir le détour. Fait que, voyez ça. Voilà. Écoute, on s'arrête le temps d'une courte pause. Et au retour, je mets un petit peu en contexte la 11e édition du Festival Cinéma du Monde. On va écouter la programmatrice du festival. Et puis, on va se quitter jusqu'à la semaine prochaine. Mais bon, on revient dans quelques instants.
Plat. Mais les nôtres sont bonnes et nos commanditaires sont vraiment géniaux.
88.3, c'est FAC.
Tu peux nous écouter sur le 88.3 à Sherbrooke, sur le CFAC.ca, partout sur la planète et directement dans ta maison avec des haut-parleurs intelligents Amazon Alexa et Google Home.
Alexa, joue CFAC 88.3.
Alexa, en plus de toutes nos balados sur Apple, Google Play et Spotify.
88.3, c'est FAC.
Tous les vendredis, on te sert le palmarès CFAC. Les 10 chansons les plus demandées au courant de la semaine. Dès 16h, monte le son, cale-toi dans ta chaise et laisse CFAC te faire défriser les bigoudis. Le palmarès CFAC.
Université de Sherbrooke.
88.3.
CFAC.
On te l'avait dit que nos bébés étaient pas mauvaises.
88.3.
CFAC.
Un jour, je vais faire un déjà écrit le script et dans le scénario il n'y a pas du tout de trajet.
Et oui, c'est la 11e édition du Festival Cinéma du Monde de Sherbrooke qui va s'amorcer le 9 avril prochain et qui va durer un peu moins longtemps qu'il y a eu d'habitude. D'habitude, c'est 8 jours, je crois. Puis là, c'est du 9 au 14. Donc, on parle de 6 jours. Puis, je pense qu'ils ont réduit aussi le nombre de films par rapport aux dernières années. C'est une drôle d'intro là, que je fais, mais, mais je trouve que c'est bien parce qu'à chaque année, on dirait qu'on essayait d'en faire plus. Puis à chaque année, je trouvais qu'on se perdait un peu parce qu'à un moment donné, il y a comme...
L'organisation.
Pas nécessairement l'organisation, mais tu sais, quand t'as 4 films qui jouent dans le même créneau horaire puis qu'il y en a 2 ou 3 d'intéressants, t'es comme... T'as pas le goût de faire un choix. T'sais, t'as le goût de faire que, ah, OK, ben, ce film-là, je peux le voir, ce film-là. T'sais, d'avoir des bons duos. Puis ce qui arrivait dans les dernières années, c'était toujours que, comme, ah, OK, ben, tu sais, il y a 2 films qui ont l'air vraiment intéressants, mais soit ils jouent rien qu'une fois dans le festival, fait qu'il faut vraiment que je fasse un choix. Ou sinon, ils rejouent une deuxième fois, mais le match est aussi avec un autre film que je veux voir dans la deuxième projection. Fait que là, t'es comme, t'as toujours à faire des choix. Là, je sais pas exactement, là, j'ai pas étudié en détail chaque jour et chaque projection, mais maintenant on est à 80 films de 35 pays. T'sais, l'année passée, je pense qu'on était autour de 125 films. Ah ouais. C'est quand même une grosse drop. Ce qui fait aussi un drôle de feeling, c'est qu'habituellement, j'en profite aussi, t'sais, le Festival Cinéma du Monde, oui, il y a une compétition avec des films en primeur ou des films relativement récents, mais c'est aussi un gros recap de la dernière année ou des 2 dernières années, en fait, de cinéma international. Puis là, je sais pas si l'année passée, c'est parce que j'ai vu trop de films ou parce que je sais pas si la sélection, c'est la réduction du nombre de films, peu importe, mais j'ai quasiment déjà vu un film sur 2. Okay. C'est quand même cool parce que la plupart des films que j'ai vus, tu sais, je trouve qu'ils étaient vraiment de qualité. Puis ça me donne justement le goût d'aller voir les autres films que j'ai pas vus. Mais c'est rare que ça arrive. T'sais, même en compétition, là, on va en parler un peu avec la programmatrice dans quelques instants. Mais... je verrai toujours vos visages qui est en compétition justement pour meilleur film international de fiction. Il y a Godland aussi qui se trouve sur la plateforme Criterion qui est vraiment magnifique. Pour vrai, allez le voir. Oui, je viens de dire qu'il est sur un channel puis vous pouvez le trouver chez vous, mais il y a vraiment de plus-value à le voir sur grand écran. Là, c'est un film tourné carré là, en 16 mm, je pense. Très granuleux, très désaturisé, mais vraiment magnifique à voir à l'écran. Là, c'est un prêtre qui se promène en Islande. T'sais, il mouille, il neige partout, il est sur le dos d'un âne. On est genre fin 19e, début 20e siècle. Puis il est comme, je vais aller... Comment t'appelles ça, là? Donner de la religion. J'ai perdu le mot.
Évangéliser?
Convertir, des affaires de même. Mmh. Il va comme aller construire une église dans un spot random en Islande, puis faire comme... on est catholique. fait qu'on suit ce prêtre-là. Mais pour vrai, l'épopée est quand même cool. Allez voir la bande-annonce, ça va vous donner une idée générale du film et de son look. Mais des autres films, il y a Ama Gloria, un film français, Europa, d'un film australien et british, et Les damnés ne pleurent pas, une coproduction France-Belgique-Maroc. Donc ça, c'est quand même trois films que je n'ai pas vus puis que je vais avoir le goût de voir pendant... Le festival. Même chose du côté des documentaires. Donc, il y a trois compétitions. Meilleur long-métrage de fiction, meilleur long-métrage documentaire et meilleur film court-métrage de la région. Donc, c'est les trois compétitions. Au niveau des documentaires, c'est L'éloge de l'ombre de Catherine Martin, qui est un film québécois. La mère de tous les mensonges, coproduction Maroc, Arabie Saoudite, Qatar et Égypte. Les filles d'Olpha, qui a été aux Oscars, en fait, il n'a pas gagné, mais il était en compétition pour meilleur film international. Fait juste celui-là, je pense qu'il vaut la peine d'être vu. Film français-tunisien. Sur l'Adama aussi, que j'ai vu, qui a gagné l'Ours d'or... Au plus récent festival du film de Berlin l'année dernière. Et Umberto Eco, La bibliothèque du monde, donc, qui s'intéresse évidemment à l'auteur bien connu. Donc, vraiment une très belle programmation. Puis là, il y a plein d'autres films. Il y a le film d'ouverture, je ne vais pas trop en dire parce que la programmatrice va en parler. Mais il ne faut pas manquer sa chance d'aller voir ça parce que c'est vraiment un beau festival. C'est une belle occasion de voir des films qu'on voit rarement sur grand écran puis qui ont souvent une distribution assez limitée. On va faire tirer des billets éventuellement. Je ne sais pas comment, là, mais on a reçu des billets à la station. Donc, écrivez donc sur la page Facebook là, si jamais vous nous entendez. Si vous voulez des passeports, on a des passeports et des billets individuels à faire tirer, mais sinon, on va essayer d'organiser de quoi d'autre là, sur LinkedIn ou je ne sais pas trop. Je vous laisse justement avec Catherine Villot et on revient pour conclure cette belle émission. Donc, je suis avec Catherine Villot, directrice de la programmation du Festival de cinéma du monde de Sherbrooke. Bonjour Catherine, vous allez bien?
Bonjour, très bien, merci.
Parlez-nous de cette 11e édition du festival et des défis peut-être qui auront présenté cette programmation très diversifiée.
Oui, bien c'est un défi en fait qui correspond au défi des cinémas du monde en 2024, c'est-à-dire une forte présence qui nous précède du cinéma américain avec des méga productions qui coûtent 200 millions à produire puis qui rapportent 1,5 milliard au box-office. Nous, on cherche une petite place pour dire, il y a autre chose qui existe à côté. Puis il y a plein de créateurs partout dans le monde qui ont aussi des propositions à nous faire pour nous faire réfléchir, puis nous donner parfois des raisons d'espérer, de donner des outils critiques aussi que le méga cinéma américain que vous voyez sur les plateformes vous donne pas avec autant de courage, on dirait. Donc, moi, je navigue dans toutes ces propositions-là toute l'année. Je regarde ce que les différents pays ont à proposer, les différents cinéastes indépendants. Parfois, il y en a qui reviennent, dont je suis la trace, des réalisateurs qu'on a déjà présentés au festival. Puis là, je constate que, quelques années après, ils ont proposé quelque chose d'autre. Puis je sais que le public est fidèle ici, les reconnaît. Les films, les réalisateurs qui reviennent sont reconnus par le public, comme c'est le cas de Nanni Moretti, par exemple. Donc, ouais. Il y a peut-être parfois des films qui auront été présentés au cinéma avant ou un peu après, mais l'idée, c'est de les regrouper. Tu sais, si vous prenez une semaine, là, puis vous dites, moi, le reste du temps, je regarde ça chez nous sur mon écran, mais au début d'avril, j'aime ça aller au cinéma, il fait beau. Et puis, on a réuni des titres qui, les uns à côté des autres, font du sens, ouais. Je pense.
Évidemment, 35 films, 80 projections, c'est quand même un gros engagement.
35 films de fiction,
35 pays, pardon, représentés. Oui, c'est ça. Parlez-nous peut-être de la compétition internationale, oui. Tant documentaire que
elle
fiction. Elle
est solide, la compétition, parce qu'elle est très diversifiée. Alors, en fiction, on a un film qui nous amène au Cap-Vert, un film tunisien, un film marocain, un film français de mémoire en compétition pour la fiction, puis en documentaire, le Maroc, la Tunisie, enfin, 5-6 pays, là, l'Islande, qui nous amène ailleurs sur le plan formel. Je prends l'exemple de nos films en documentaire. On a une proposition marocaine qui s'appelle « La mère de tous les mensonges » qui fait référence à un événement historique qui est arrivé au début des années 80 que le Maroc a un peu effacé de son histoire. Puis dans les familles, c'est des émeutes qui ont eu lieu dans les années 80, qui ont été réprimées. Puis chacun porte dans sa famille un souvenir de ça, mais on n'en parle pas. Puis la réalisatrice constatait que ce silence était lourd, puis elle voulait libérer la parole de sa famille. Alors, comment les faire parler? Elle a créé une maquette qui représente le quartier de Casablanca de son enfance. Et là, autour de la maquette, les langues se sont déliées. Puis la mère de tous les mensonges, qui est le personnage de la grand-mère, qui était certainement une de celles qui a voulu qu'on n'en parle pas, se dévoiler à nos yeux comme quelqu'un en réalité qui voulait surtout protéger sa famille. Donc, notre propre lecture de ça va changer au fur et à mesure que le film évolue. Donc, c'est un exemple d'un réalisateur qui choisit un traitement inusité, exigeant, pas courant dans nos méga productions habituelles et qui libère la parole. Je trouve ça très inventif. Puis, en parallèle à ça, le film Les filles d'Olpha, qui était une des propositions qui s'est rendue aux Oscars, qui n'a pas gagné, là, mais qui s'est rendue jusqu'aux Oscars, c'est un film tunisien où une mère et ses quatre filles, dont une mère célibataire seule s'occupe de ses quatre filles, dont deux ont disparu, qu'on ne verra pas dans le film, parce qu'on soupçonne qu'elles ont rejoint Daesh. Alors, la réalisatrice dit comment leur faire parler de tout ça. Elle imagine inviter dans l'action des comédiennes, dont une qui va jouer le rôle de la mère et deux qui vont jouer le rôle des filles qui sont parties. Donc, la vraie mère et les vraies filles se trouvent en dialogue avec des personnages qui sont presque leur miroir. Puis la mère va aller jusqu'à dire en entrevue, quand elle va commenter sa collaboration au film, que la comédienne avait l'air plus vraie qu'elle. Donc, ça nous fait réfléchir à la vérité, à ce qu'on peut dire, ce que la fiction peut dire, ce que le documentaire veut dire. Ça, c'est deux exemples dans notre sélection documentaire où les films sont des propositions formelles qui nous font réfléchir sur le contenu, mais sur le cinéma aussi, puis sur une différente réalité. C'est ce que je voulais raconter.
Ben, il va falloir assister à ces projections-là. C'est ça, exactement.
C'est ça, parce qu'il y a je prends le film islandais en fiction, Godland.
Où, très, très, très beau visuellement, à voir sur grand écran aussi.
C'est une traversée de l'Islande rugueuse, dure, on imagine ce prêtre au 19e siècle qui va aller retrouver une communauté pour créer son église. Puis il va prendre un chemin beaucoup plus difficile que le chemin. Est-ce que vous l'avez vu?
Oui. Puis, c'est dur, c'est mouillé comme film. C'est froid.
C'est une expérience.
Mais oui, c'est ça, exactement.
Hein,
On
est dans le côté mystique aussi. Alors, chaque film arrive avec une proposition particulière. Mm-hmm. Et puis, on sort de là, on réfléchit, on fait des liens. Puis, peut-être que ça nous donne des idées, puis on devient des meilleurs citoyens après.
je veux parler en terminant peut-être du film d'ouverture, du film de clôture. Bon, c'est sûr que l'année dernière, on avait le film événement des Hommes la nuit, là, le succès populaire. Région, c'est ça qui va être dur à recréer. Mais parlez-nous justement de ces deux films qu'on vise un plus grand public, évidemment, mais qui sont aussi
On a aimé ça l'idée l'année dernière d'avoir un film québécois pour ouvrir le Festival des cinémas du monde. Le cinéma québécois, on peut dire, même si on est de plus en plus populaire au Québec, parce qu'on sait que c'était une assez bonne année cette année pour le cinéma québécois. Là, il y a 6 films, je pense, qui ont dépassé le cap du 10 millions, ce qui est on dit que c'est la deuxième meilleure année dans les 10 dernières années pour le cinéma québécois. Donc, le cinéma québécois n'est pas en période trop difficile en ce moment, mais on trouvait intéressant de dire, est-ce que le cinéma québécois répond à des questions internationales? Puis le frère Marie-Victorin, pourquoi tu me dis que ça répond à des questions internationales? Bien, l'histoire du frère Marie-Victorin, c'est l'observation scientifique, la connaissance scientifique. Et là, dans le cas de l'histoire qui nous intéresse, qui a inspiré Lynn Charlebois, c'est la connaissance scientifique de la sexualité. C'était ça, les lettres biologiques qu'il entretenait avec Marcel Gauvreau. C'était un dialogue sur la sexualité extrêmement pointu et technique, qui était tellement précis que cette complicité-là entre les deux auteurs de lettres a laissé penser qu'il y avait peut-être une relation amoureuse entre ces gens-là. Donc, l'aspect extérieur du film, c'est une belle histoire d'amour. Est-ce que le frère Marie-Victorin était amoureux de Marcel Gauvreau? Ça, c'est niveau grand public. On est curieux de ça. Mais derrière ça, il y a... moi, je trouve que le message d'observer la beauté comme une des solutions... Ça rentre même dans notre réflexion sur les changements climatiques, t'sais, l'attention qu'on porte à la nature. Lui, il était persuadé, le frère Marie-Victorin, que si on observait la nature autour de nous, on aurait une implication citoyenne plus grande pour la sauvegarde de notre environnement. Même si ça a été dit en 1930, aujourd'hui, ça fait du sens de le répéter. Mm-hmm. Puis frère Marie-Victorin, bon, c'est pas ça qui va faire vendre des billets, là, mais c'est le fondateur de l'ACFAS, pas juste du Jardin botanique. Il y a une grande contribution à notre histoire intellectuelle. Ça, c'est, disons, pour les initiés. Mais on a une réalisatrice, Lynn Charlebois, qu'on avait vue, qu'on connaît bien à la télévision, mais dont le premier film était Borderline, produit par Roger Frappier, qui est quand même un des cinéastes qui a laissé des jalons dans notre histoire du cinéma indélébile. Mm-hmm. Donc ça, je trouvais qu'il y avait un assemblage de symboles pour le film d'ouverture. Je trouvais que ça faisait du sens.
Ouais.
Alors, on est content de le présenter. Et puis, le film de clôture, ben, aussi, c'est une tradition au festival depuis quelques années de présenter des films de clôture français, là, même si on a eu autre chose que des films français comme film de clôture. Puis là, moi, je suis beaucoup l'actualité en France. Parce que des fois, je trouve qu'on est comme... Ils sont comme 2-3 mois ou 2-3 semaines en avance sur nous autres. Comme là, les agriculteurs, quand les agriculteurs sont descendus, j'ai dit, bon, je comptais les jours, quand est-ce que nos agriculteurs vont descendre? Là, les agriculteurs sont descendus. Donc, je trouve que c'est amusant d'avoir les mots que les Français ont sur l'analyse de la crise pour analyser nos propres problèmes ici, là, le rapport à l'environnement, etc. Puis là, bien évidemment, la toile de fond, c'est ça, là, les revendications sociales, avec une anecdote où est-ce que c'est des usurpateurs, la dimension de la comédie rend ça assez léger, mais ça nous permet de prendre une distance critique avec ce monde-là qu'on peut présenter aussi comme assez troublé, on va dire.
Oui. Donc, c'est un rendez-vous pour cette 11e édition du Festival Cinéma du Monde de Sherbrooke du 9 au 14 avril. Catherine Villot, programmatrice du festival, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler.
Merci.
Et voilà, donc on fera un topo un peu plus près du festival là, sur les incontournables à ne pas manquer lors de cette 11e édition. C'est ce qui conclut cette émission de Ciné-Histoire. La semaine prochaine, on va encore jaser de nouveautés, notamment possiblement Chien et chat, donc un film qui a l'air, ma foi, fort savoureux. Vous ne voudrez pas manquer notre couverture de ce film-là, mais sinon on va parler d'Hôtel Silence de Léa Poul qui va être en ville aussi la semaine prochaine. Donc voilà, tout ça est bien plus la semaine prochaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Et on se retrouve vendredi prochain.